t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints dans Parole aux auditeurs. Le président Joseph Kabila a reçu la semaine dernière une délégation de hommes d'affaires américains. L'électrification et la construction des logements sociaux dans les milieux ruraux, la production d'eau potable à coût réduit et l'asphaltage de quelques 20 000 km de routes modernes ont été retenus comme l'essentiel des projets à réaliser dans les prochains jours. Selon vous, quels seraient les préalables pour la réussite de ces projets, particulièrement en milieu rural? Rejoignez-nous au 081-890-4969-09-97-06-4969 pour vos interventions en direct. Le débat se tient également sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Jean-Claude Tiala est à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalambay et Pierrot Elamegi vous le présente sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elamegi.
Et nous profitons pour faire les points sur la situation en milieu rural, que ce soit la question de l'électrification, l'accès à l'eau potable, les routes des dessertes agricoles et l'accès aux soins de santé. Autant de questions se posent dans le milieu rural dans notre pays et nous en profitons pour en parler dans cette émission. Et nous recevons Monsieur Justin Bitakura, ministre du Développement Rural. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue à Radio Capi.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Capi.
Alors, on vous a déjà reçu la parole aux auditeurs cette fois-là pour parler politique, mais aujourd'hui on quitte un peu le terrain politique pour parler des préoccupations sur terrain. On peut avoir en quelques lignes la situation aujourd'hui en milieu rural quand vous avez pris le ministère, les grandes questions?
Oui, disons d'abord que un des malheurs de notre pays, effectivement, est que la politique a occupé tout l'espace de la société, et le travail, le développement et l'avenir du pays ont été relégués au dernier plan. C'est d'abord ça. Or, qu'on monte et qu'on descende, il n'y a pas d'avenir de ce pays si on ne se met pas au travail et si on n'améliore pas nos conditions de vie. Et c'est pour cela que je dois dire aux éditeurs qui me suivaient tout à l'heure qu'il n'y a pas plus paysan que Bitakura dans ce pays. Il n'y en a pas.
Moi aussi.
Peut-être oui, mais il n'y a pas plus paysan que Bitakura. Et je ne m'en cache jamais. Je le dis toujours que je suis d'abord un rescapé de la société. Parce que dans les milieux ruraux ou dans nos villages, effectivement, à l'époque, il y avait la vie. Je dis bien, à l'époque, il y avait la vie. Quelles que soient nos conditions sociales, qui étaient peut-être déplorables. C'est mon cas par exemple, je le dis toujours, je le répète. Moi je suis né dans une case en paille, j'ai partagé mon enfance avec les cancrelats et les souris. J'ai porté les chaussures à l'âge de 9 ans, j'étais berger, j'ai couru dans les épines, pieds nus. Mais me voici aujourd'hui quand même, ministre du Développement Rural. Le premier boulot de mon père était cantonnier et avec le salaire de cantonnier il faisait vivre sa famille avec ses trois femmes. Et comme quand je me trouve à la tête de ce ministère de rural, j'ai conscience qu'il faut faire sortir nos villages des conditions actuelles. Nos villages sont devenus des mouroirs. Nos villages maintenant sont abandonnés entre les mains des groupes armés. Nos villages, ce n'est plus ces villages-là où les enfants allaient à l'école chaque matin et les parents allaient au champ. Et le soir, toutes les familles mangeaient en commun. Mais aujourd'hui, pour aller au champ dans certains villages, c'est le parcours du combattant. Vous n'êtes pas sûr.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, la question du développement rural, c'est un grand défi aujourd'hui.
C'est vraiment un grand défi. Ce n'est même pas un défi. C'est une extrême urgence. C'est même par là où passera le salut de la République.
Mais aussi, je vais très loin. Il y a une forme d'esclavagisme qui ne dit pas son nom dans ce pays. Où 20% des citoyens qui habitent les grandes villes ou les grandes agglomérations consomment 80% du budget national. Et 80% des citoyens qui vivent dans nos villages, qui vivent dans nos milieux ruraux, pourquoi pas périurbains, n'ont pas accès à plus ou moins 20% du budget national. Donc, pour moi, ce n'est même pas une nouvelle forme de colonisation, mais c'est plutôt de l'esclavagisme et il faut réparer.
Voilà. Et quand vous dites qu'il faut réparer aujourd'hui, quand vous avez pris ces ministères, quels sont les axes prioritaires d'actes qui peuvent être posés aujourd'hui pour commencer à améliorer tant soit peu, parce qu'on sait que le fossé est très profond, il faut quand même arriver à faire quelque chose.
Non, il y a d'abord la question des routes et des dessertes agricoles. Il faut que je vous en parle. La question des routes, des dessertes agricoles. Vous savez, à l'époque, c'était obligatoire. Chaque famille avait l'obligation de pouvoir arranger 1 kilomètre de route. Des routes de dessertes agricoles. 1 kilomètre. Et il y avait des cantonniers, comme je viens de le dire, qui étaient payés. Moi, actuellement, c'est vrai. On peut dire qu'il y a quelques interventions, mais elles sont très maigres. Je vous l'ai dit. Je prends le cas de mon ministère, qui a la charge de la DVDA. La DVDA, c'est la Direction des Voies de Dessertes Agricoles. Notre plus grand partenaire dans ce secteur-là, c'est le FONER. Et nous sommes à 3. Il y a l'office de route, il y a l'office de voies de drainage, et il y a la Direction des Voies de Dessertes Agricoles, qui dépend de mon ministère. Mais vous allez constater que c'est peut-être après 4 mois, les cantonniers travaillent, c'est après 4 mois, ils sont pas payés à travers toute la République. Le cantonnage manuel dans nos villages. Et à un moment, je constate, et je le dis, j'échange même avec mon collègue des infrastructures. Je lui dis que ce sont des fonds perdus. Si on envoie des petits fonds pour les routes et dessertes agricoles, mais 4 mois plus tard, ces cantonniers ne sont pas payés. Les routes même que nous avons réparées, ou les peu de kilomètres qu'on a réparés en milieu rural, les herbes ou les érosions reviennent comme avant qu'on ait donné ces fonds-là. Donc si ces fonds pouvaient être réguliers, mensuellement, le peu qu'on a, nous pensons que nous pouvons aller loin. C'est ça mon cri d'alarme.
Et on peut dire que la bonne volonté elle-même ne suffit pas si on ne peut pas avoir assez de moyens. Mais si déjà avec le problème de route, il y a ça, le problème de l'eau aujourd'hui en milieu rural, est-ce qu'il y a-t-il d'amélioration avec l'hydraulique rurale aujourd'hui?
Oui, c'est le service de mon ministère, le service national d'hydraulique rurale. Mais je voulais insister d'abord sur les routes de cette agricole. Là où il n'y a pas de voie de communication, il n'y a pas la vie. Là où on produit maïs, café, cacao, je ne sais pas, haricots, arachides, mais vous n'avez par où évacuer et par quoi évacuer? Pas de camion, pas de camionnette, le véhicule est inaccessible. Mais ces gens-là sont comparables à un animal dans un zoo. Et c'est pourquoi, au cours de ce mois de décembre, je suis en train de lancer l'initiative que j'appelle l'initiative Bomoko à Lingala, au Moja en Swahili, et pourquoi pas Kintwadi en Kikongo, Tudjibumwe en Chiloba. Qu'est-ce que je veux faire par là? Je voudrais alerter l'opinion nationale et pourquoi pas internationale. Parce que nous avons des partenaires techniques et financiers qui interviennent. Par-ci, par-là, BAD, Banque mondiale, et coopération technique belge, et coopération coréenne, et coopération japonaise, que nous essayons effectivement d'inventorier nos besoins. Et nos besoins doivent aussi être axés, pas seulement dans les grandes villes, pas la route de Kitambo, pas la route de Limete, pas la route de Lubumbashi uniquement, mais voyons nos villages, d'où nous sommes venus. Et je suis même allé plus loin, que normalement, aujourd'hui notre combat c'est lequel? Il faut un fonds spécial pour le développement rural. Il faut un fonds spécial pour le développement rural.
Et je crois que ça, c'est un élément important, parce que s'il faut considérer la globalité du budget tel que vous avez présenté, qui est 80% de ceux qui habitent les grandes agglomérations consomment 80%, ça c'est un problème sérieux. Faudrait-il penser à avoir des fonds spéciaux pour s'occuper de la question du développement rural? On va revenir à vous, nous allons écouter les témoignages de ceux-là, peut-être qui vivent aussi à milieu rural, et ensemble, comment on peut arriver à relever ces défis. Il y a la question de l'électrification, on va revenir là-dessus, il y a la question de l'eau potable. Jean-Claude, vous êtes à Kindou, bonjour, merci de nous avoir rejoint dans Parole aux auditeurs.
Bonjour bien-aimé Pierrot, et bonjour aussi à tout le monde qui vont intervenir à cette belle émission Parole aux auditeurs.
On vous écoute, Jean-Claude.
Oui, merci Pierrot. Dans PDG, moi, je dis à entendre parler votre invité, M. Bitakwira, mais je perds même mon latin, je ne parviens pas à comprendre. Je me pose d'abord la question de savoir si dans son initiative, dans toutes ces initiatives-là, c'est un chapelet de bonne intention, il va faire ça avec les moyens de sa politique ou bien avec la politique de son moyen. Hein? Ça fait 15 ans, lui aussi, il est dans ce régime, parce que quelquefois, on entendait dire qu'il était opposant. Mais il est de ce régime depuis 2001 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça fait au moins 16 ans. Et moi, je pense que dans tout pays, il est au moins respecté un pays sérieux, comme le Brésil. On commence d'abord à développer les milieux ruraux. Mais ici, chez nous, moi, je vais vous faire un exemple. Je suis au Maniema. Maniema, c'est une province. Mais quand vous voyez comment les nourritures pourrissent dans le fin fond de la province, et que nous sommes à quelques 250 km, par exemple, de Kasongo, à quelques 300 km de Tunda, vers Kibombo, à quelques vers Punia, mais c'est rien du tout. Et lui, c'est tout le monde maintenant qui le mal des Congolais, c'est parce que tout le monde veut s'occuper de la politique. Alors il y a même un principe qui dit, si vous ne vous occupez pas de la politique doit s'occuper de vous. Quand la politique congolaise est médiocre, et quand tout le monde sait que tous ceux qui travaillent aujourd'hui, ils sont là pour leur ventre, ils ne s'occupent pas de la vie quotidienne de la population, c'est dommage. Avec quel budget, lui qui a accepté de travailler dans ce gouvernement, il peut me présenter d'abord les budgets de Maïral, de son ministère à combien? Ce sont les initiatives. Et aujourd'hui, il va nous dire que non, il va consulter les CTB, des partenaires internationaux, alors que nous sommes un État indépendant et souverain. Pierrot et Amélie, soyons sérieux, mon cher ami. Nous ne cherchons pas à distraire les gens. Ça fait 16 ans aujourd'hui, nous avons vu des initiatives, nous avons des gouverneurs, nous avons des politiciens qui se sont déplacés pour dire nous partons en Corée, nous partons aux États-Unis, nous partons en Grande-Bretagne pour nous amener les investisseurs. Où sont ces investisseurs? Nous avons des barrages qui sont, depuis 2005 jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont jamais pris fin. Je me pose la question, avec quelle baguette magique que lui, Bitakwira, aujourd'hui, il va nous dire que non, il va faire dans une année, alors que nous savons que nous sommes devant des échéances électorales. Avec quel budget? Le budget de 5 milliards, avec les initiatives comme Bomoko, ou Moje, qui est en train de dire, soyons sérieux, Pierrot, et ne cherchons pas à dire, parce que le peuple congolais n'est pas naïf pour être trompé. Nous cherchons l'alternance. Ceux qui ont mal géré le pays, ils passent à côté et nous avons d'autres personnes. Après 5 ou 10 ans, si les autres ne travaillent pas bien, ils sont limogés et qui quittent le pouvoir et pour chercher d'autres personnes.
Voilà, merci beaucoup. Pour vous, vous estimez que à ce moment, ce qu'il faut faire, c'est parler seulement politique et aller à l'alternance. C'est la solution. Hein. Il n'y a pas un budget conséquent qui puisse permettre au ministre Bitakwira de réaliser les projets dans le domaine du développement rural. Merci beaucoup, Jean-Claude Adrien. Vous êtes à Kananga. Bonjour. Adrien, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot.
Voilà, on vous écoute.
Oui, merci Pierrot de la parole que vous m'accordez. Je suis aussi perdu en suivant Excellence Bitakwira que je salue en passant. J'ai toujours dit, Excellence, le gouvernement ne se plaint pas. Hein, le gouvernement agit. Lorsque vous êtes en train de vous plaindre, je ne sais pas, nous maintenant le petit peuple, qu'allons-nous faire? Lorsque vous êtes en train de vous stigmatiser, bon, peut-être je suis en train de comprendre, dans une sorte de mesure. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons le gouvernement Matata, il y avait un projet qui était initié pour la construction ou bien la réhabilitation de 22 kilomètres par an dans chaque province. Mais notre estimation est que la province du Kasaï central, la province occidentale démembrée n'avait jamais connu ces projets-là. Deuxièmement, au jour d'aujourd'hui, je ne parviens pas à comprendre bien. Est-ce que je peux dire, celui qui est en train de stigmatiser son propre gouvernement, c'est l'opposant Bitakwira ou c'est l'homme d'État Bitakuira. Troisièmement, moi je pense, au jour d'aujourd'hui, aller dans le sens du développement rural, je pense que c'est déjà tard, parce que c'est comme Jean-Claude l'a dit, ce n'est pas par une baguette magique que vous pouvez y parvenir. Ce que moi je peux vous proposer, et que vous puissiez peut-être garder ce plan, il est bon, mais que vous puissiez le soumettre à celui qui pourra peut-être vous succéder, celui-là qui aura même la confiance de la population, pour voir comment est-ce qu'il faut vraiment changer les histoires, parce que la situation est vraiment mauvaise. Lorsque je prends la route donc nationale numéro 1, Ilebo Kananga, je vous assure, et j'ai même posé la question aux hommes de Dieu, est-ce le chemin de la croix? Ce n'est pas l'axe-là. Lorsque vous, donc, vous allez, le véhicule, c'est peut-être par la grâce divine qu'il n'y a pas assez d'accidents. Mais c'est une route impraticable. Lorsque vous prenez même le grand artère au niveau de la ville de Kananga, je dis bien le chef-lieu de la province, il y a certaines routes qui sont en voie de disparition. Lorsque vous prenez la route Ilebo, c'est une route connue, du côté Lukonga, et ainsi de suite. C'est une route, vraiment, il n'y a que le piéton qui y accède, même le vélo, c'est tout simplement difficile. C'est comme ça que moi j'ai toujours conclu. Pourquoi chercher à construire des routes à terre battue au lieu de se dépenser pour asphalter ces routes? Parce que lorsque une route est asphaltée, je prends Kikwit et Kinshasa, c'est déjà une garantie que pour que cette route-là ne puisse pas encore se dégrader, il faut au-delà d'années. Lorsque on gaspille de l'argent, parce qu'on sait que lorsqu'on sort l'argent, derrière là, il y a ce qu'on appelle opération retour. On fait à terre battue, une pluie des pluies, la route devient impraticable comme si elle n'avait jamais été touchée pendant 50 ans. Donc moi je pense que ça, c'est donc de la peine.
Alors pour vous, Adrien, vous estimez d'abord, premièrement, vous estimez que le ministre ne devait pas dénoncer, en fait, pas en termes guillemets, dénoncer, parler de la situation telle qu'elle se présente maintenant. Et vous pensez que le plan qu'il a pour le développement rural, il faut le garder pour un autre gouvernement. Mais les routes en pleine ville de Kananga, on ne parle pas de ce qui se passe en ville. Nous allons un peu dans l'arrière-pays parce que c'est là où se trouve la majorité de notre population. Et vous avez posé le problème de la route Ilebo. C'est la même question, c'est la difficulté. Et vous rejoignez Jean-Claude pour dire il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas d'argent aujourd'hui. Avec quoi on peut financer un plan pour le développement rural? Merci beaucoup Adrien. Élie Lokwa, vous êtes en Bandaga. Bonjour Élie.
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour à tous les prédécesseurs qui ont intervenu.
On vous écoute. Je
voudrais un peu expliquer dans le jeu du débat. Je remercie tout d'abord le projet lancé par les opérateurs économiques avec le président de la République. La première des choses, parce que vous demandez le préalable pour lequel on veut tout simplement donner en place et pour connaître la meilleure exécution de ces projets. Donc, la première des choses, c'est d'abord les contrôles du leader. La deuxième, nous avons, il faut qu'il y ait aussi les contrôles de la qualité du travail, les contrôles des personnels qui vont travailler dans ces projets de la construction et de l'électrification dans les provinces qui seront ciblées. Donc, dans les contrôles d'idées, il faut présenter les mécanismes de contrôle qui serviront, n'est-ce pas, à calculer le coût des travaux réalisés, à comparer le coût réel au coût budgété et à mettre en œuvre des mesures correctives lorsque le coût réel ne peut pas correspondre au coût budgétaire. Donc, ici, le plan de gestion budgétaire est en quelque sorte salutaire de manière à ce qu'on puisse spécifier à quel intervalle les rapports, si les coûts seront élaborés, indiquer les méthodes et les outils qui seront employés pour gérer le budget. Ça, c'est la première des choses. Et l'autre chose, c'est qu'il faut qu'il y ait la gestion de la qualité du travail dans ces projets pour la construction et l'électrification. Il faut qu'il y ait la gestion de la qualité qui va se comprendre de la planification d'abord, l'assurance et le contrôle de la qualité, ainsi l'amélioration continue. Ce qui avait fait même échouer le projet, l'ancien projet de 5 chantiers depuis trop longtemps, nous avons entendu ces projets parce qu'il n'y avait pas le suivi et le contrôle qui pouvaient être faits de manière à ce qu'on puisse bien gérer rationnellement ce travail de 5 chantiers. Dans les autres pays du monde, comme la Chine, il n'y avait qu'un seul chantier, l'agriculture. Mais la manière dont les autorités de ces pays ont géré les seuls chantiers-là de l'agriculture, Vous avez au Rwanda compte que la Chine aujourd'hui est devenue un pays le plus économique plus que certains pays du monde. En quelque sorte, c'est parce qu'ils ont en quelque sorte géré le projet d'un seul sentier de l'agriculture. Mais aujourd'hui, dans notre pays, il se pose un problème le plus important, celui, n'est-ce pas, du manque de suivi et d'évaluation des personnes qui vont gérer le projet comme tel, comme aussi nous voulons faire.
Alors, Elie, vous êtes revenu à ces hommes d'affaires américains d'origine sud-coréenne qui ont été reçus par le chef de l'État. Vous estimez que la question de l'électrification des milieux ruraux doit être prise dans la globalité des contrôles, des suivis de la qualité des travaux. Le ministre pourra nous dire que c'est comment ces projets vont être initiés, où est-ce que ça va. Merci beaucoup, Elie. Alors, mais vous estimez que le grand problème aujourd'hui, quand le projet, si jamais il est initié, c'est la question du contrôle, du budget, de la qualité du travail et même de personnes qui sont appelées à exécuter ces différents projets. Nous allons écouter Arsène, je crois, il est à Kindu, à Kikwit, pour revenir à notre invité et commenter les points de vue des auditeurs. Arsène, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Très content de rencontrer sur la tribune de la radio Capi, Monsieur Bikotapira. Je veux faire mon entrée de jeu comme ça. Il y a une différence entre moi et Monsieur Bitakwira. Je suis presque le contraire de Monsieur Bitakwira. Donc, je voulais dire ceci pour dire que je suis contraire à Monsieur Bitakwira. Je voulais dire ceci. Je connais mon parent, je connais mon père, mais il y a quelqu'un qui m'a vraiment impressionné. C'était Monsieur Henri Takizala. Henri Takizala disait ceci. Il disait, les villageois restaient au village. Les gens de la cité des grandes villes restaient dans les grandes villes. Pourquoi il disait ça? Peut-être à cette époque, il était mal compris. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Vous voulez dire, M. Takizala Henri, il voulait dire ceci. Vous êtes au village, restez au village, étudiez, comprenez la science et mettez-vous au travail. Vous êtes en ville, restez en ville, étudiez, comprenez le travail et vous allez vous compléter avec ceux qui sont au village. Aujourd'hui, quand M. Bitakwira se vante de devenir ministre, moi, M. Hassan, je ne sais pas de devenir ministre. Moi, je rentre au village. Je quitte la ville, je vais au village. Et ça, c'est pragmatique, c'est pratique. Au moment où je vous parle, je suis entre Kikwit, mon village, et Kinshasa. Qu'est-ce que je fais? J'ai compris que ces gens sont impressionnés par la ville. Pourtant, la vraie vie sont au village. Les villageois s'impressionnent par la ville. Il faut retourner chez eux, qu'ils travaillent. Mais je les accompagne, je quitte la ville, je vais au village. Faire quoi? Planter les arbres. Donner la nourriture aux citoyens. Donner un capital matériel aux citoyens congolais. Donc ça veut dire le premier matériel que nous avons, ce sont nos bois, ce sont nos petits élevages. Renforcer la technique que nous avons appris en ville, au village. Vivre avec les villageois, comme eux ils vivent. C'est ça. Il ne faut pas chercher à impressionner les gens ici, devant la tribune de la radio Capi. De deux, nous avons connu beaucoup de projets. Les Américains n'ont pas à nous impressionner. Ils savent que les Congos ne donnent pas tout ce qu'il y a comme espace sécuritaire pour faire du bon travail. Parce que les gens qui sont au village cherchent à aller en ville, les gens qui sont en ville sont étouffés et ne se retrouvent plus. Même les gouvernants, ils ne se retrouvent plus. Aujourd'hui, arrangeons la gouvernance. Rentrons sur le droit chemin. Quand nous rentrons sur le droit chemin, nous verrons que tout sera facilité. Nous allons simplifier en mathématiques. Quand vous avez une équation qui vous complique, qu'est-ce que vous faites en premier lieu? On simplifie l'équation. L'équation doit être simplifiée par les techniques que nous apprenons en ville. Retournons au village. Allons accompagner ces villageois qui croient que la ville est le ciel. Merci. Non, la ville n'est pas le ciel.
Voilà,
la ville,
merci.
C'est une organisation.
Merci voilà beaucoup. Et Arsène, vous avez quitté la ville pour entrer au village, mais vous avez quand même évoqué la question de la sécurité, l'amélioration de la gouvernance. Je prends ça comme des éléments clés dans votre intervention. 0-81-890-49-69 pour intervenir en direct dans ce magazine.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Voilà, monsieur le ministre Justin Bitapuira, vous avez suivi, beaucoup de gens ne croient plus aujourd'hui. Hein. Les gens estiment que vous-même, vous plaignez de ce qui se passe dans nos villages et dans ces conditions. Il n'y a pas assez de moyens, on n'a pas assez de budget. Et quelle que soit toute la bonne volonté que vous puissiez avoir, ça va être difficile de s'occuper vraiment de la question du développement rural. Beaucoup de gens ne croient plus.
Non, je crois que j'ai suivi monsieur Jean-Claude qui a appelé du Maniema. C'est le pessimisme qui le hante. Il ne croit rien dans sa vie. Il ne croit à rien dans sa vie. Et il croit effectivement que ce pays est condamné à disparaître. Mais ce pays vient de loin. Ce pays vient de très loin. Je dois me le dire. Moi, j'ai travaillé dans une ambassade de mon pays, à l'extérieur de ce pays. Et j'accueillais plusieurs fois des Aïrois à l'époque ou des Congolais qui quittaient Kinshasa pour aller chercher de l'abri, c'est pas en Europe ou ailleurs. Quitter Kinshasa, je vous l'ai dit. Ces gens ne savaient même pas manipuler les téléphones fixes. Là où on met la bouche, il met à l'oreille. Là où on met de l'oreille, il met à la bouche. Ce pays vient de loin. De très loin. Mais aujourd'hui, on a plus ou moins plus de 7 sociétés de télécommunications dans ce pays. Ça signifie que ce pays était même interdit. Les citoyens congolais étaient même interdits d'accéder au simple téléphone. J'ai dit bien au simple téléphone. Et là, c'est à travers toute la République. Mais aujourd'hui, je peux appeler ma grand-mère, dire Kinshasa, jusque dans le village. Et on s'entend bien. Ce pays vient de loin. Et je vais dire à M. Jean-Claude, la vie, c'est un théâtre. La vie, c'est un théâtre. Un théâtre. Chacun joue son rôle dans la pièce de théâtre et il s'efface, il va derrière le rideau. Je ne suis qu'en train de jouer mon rôle. Demain, après demain, je ne serai pas ministre de l'Oral. Je ferai autre chose. Tout comme je mourrai. Qu'il me laisse jouer mon rôle, c'est mon temps de jouer mon rôle. Et aucun jour dans ce pays, chaque jour qui viendra, jusqu'au retour du Christ, au cas où il viendra, il y aura toujours un gouvernement. Il y aura toujours un gouvernement. Chaque jour qui passera sur terre, il y aura toujours un gouvernement et il y aura toujours un ministre du domaine rural ou de l'agriculture ou des infrastructures. Il y en aura tout le temps que M. Jean-Claude passera sur terre.
Mais le problème, il dit que est-ce que vous avez des moyens pour agir dans le
développement rural? Il ne faut pas qu'il croit qu'on ne fait rien. Non plus. Il ne faut pas qu'il croit qu'on ne fait rien. Il n'y a pas 2 semaines. Je suis allé remettre de l'eau à Mekonga. Je sais que c'est petit, c'est une goutte, c'est du sable dans l'océan. Mais ça faisait 10 ans que ces populations de Mekonga n'avaient pas une goutte d'eau. Plus de 200 000 habitants. Plus de 200 000 habitants. Il me dit, comment vous recourez au CTB, Banque mondiale, BAD? Mais ce sont de tous les pays du monde. Même les États-Unis. Même les États-Unis sont surendettés. D'ailleurs, les États-Unis, c'est le pays le plus endetté du monde. Par rapport à la Chine. Il n'y a pas question d'autarcie ici, où il faut isoler la République, que la République n'a besoin de personne. Nous n'avons pas besoin de la BAD, nous n'avons pas besoin de la Banque mondiale, nous n'avons pas besoin de la coopération technique belge. Tous les pays du monde sont obligés d'avoir des partenaires techniques comme financiers. Ils parlent, non? Il faut plutôt les échéances électorales. Et c'est ça le problème du Congolais. Le Congolais ne sait pas que la pauvreté est permanente et que les élections, c'est un seul jour, un certain dimanche. Un jour férié d'ailleurs, où on ne travaille pas. La même pauvreté que tu avais le vendredi ou le samedi, avant dimanche des élections, le lundi et le mardi, tu restes le même, dans les mêmes conditions. Tu étais dans une case, ça sera la même case le lundi. Chez toi, il n'y a pas de route, il n'y aura pas de route parce qu'il y a eu élection hier. Donc je crois qu'ici, prenons-nous au sérieux et comprenons qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et moi, je promets qu'on va faire quelque chose. Et sans oublier, ici, vous pouvez demander, vous pouvez poser la question. Il y a le lycée de Luila. Je viens du lycée de Luila, dans le Bas-Congo, vers Madimba. Ça fait 4 mois que ce lycée, où il y a un internat, avec plus de 300 élèves, ils n'ont pas d'eau. Ce week-end, nous allons remettre cette eau à Luila. C'est des petits cas là, isolés. Et je vais dire à mon ami de Kananga, il s'appelle Adrien Kananga. Je vais lui dire que dans le Grand Kassai, la BAD, Banque Africaine de Développement, a investi 158 millions de dollars dans le Grand Kassai. Aujourd'hui, dans les, tous les Kassai, il y a plus ou moins 60 écoles, 60 centres de santé. À Kimboulou, c'est pas, dans tous les Kassai. Et sur les 158 millions de dollars financés par la BAD, il y a encore 64 millions de dollars qui restent pour l'eau dans la ville de Mboudjimaï. Et après cette émission, j'ai rendez-vous avec le représentant de la BAD à mon bureau pour qu'on décante cette histoire. Donc il ne faut pas que les gens pensent que parce que lui, il est enfermé à Kasongo, que rien ne se passe. C'est comme si quelqu'un disait que la terre ne tourne pas parce que tu as demandé à la terre de ne plus tourner. Que ce soit Bitakura qui est à la tête du ministère de Vandral, un gouvernement, c'est comme un corps humain. Le nez a son rôle de humer, la bouche a son rôle de manger, de parler, l'oreille a son rôle, les bras a son rôle, même l'ongle a son rôle. Chacun de nous a un rôle à jouer. Et évitons, je ne suis pas ici en train de parler comme acteur politique. Ici, je parle comme ministre du développement rural. J'ai peint le tableau qui est devant moi. Que la réalité est que les milieux ruraux sont oubliés. Et par moi, et par tous les autres gouvernements qui se sont succédés, par exemple, mais il faut alerter l'opinion qu'il faut faire quelque chose dans ces milieux. On va revenir sur les investisseurs américains. Je vais y arriver. Mais je voudrais dire à M. Adrien, qui m'a appelé de Kananga, je ne me plains pas. Je ne suis en train de faire qu'une caricature de ce que j'ai trouvé comme réalité dans le secteur qui est le mien. Oui, c'est vrai, le nom de Bitakura, peut-être le nom de Bitakura jeune. Mais ici, il ne s'agit pas d'un débat entre le rassemblement, le G7 et le gouvernement. Non, ici, il s'agit d'un ministre qui veut éclairer l'opinion sur ce qu'il est en train de faire dans son secteur. Je ne parle même pas en tant que chef de parti, je ne sais pas quoi. Non, j'ai laissé toutes ces étiquettes en dehors de la radio Okapi. Je suis ici à la croix, au tableau, pour vous montrer que nous pouvons proposer quelque chose et exact. Nos conditions de vie peuvent s'améliorer.
Je crois que c'est important, on peut y aller. On va parler de projets, si jamais on a ces projets d'électrification, il faut contrôler. Peut-être que ça va vous permettre de pouvoir éclairer l'opinion par rapport à ces projets même.
Non. Mon ami dit, est-ce que je parle comme opposant ou je parle comme un homme d'État? Non, je parle comme ministre.
Oui, là, vous avez déjà éclairé, je crois qu'on peut
évoluer pour... Et aussi, il me dit, il faut que je laisse la place au gouvernement ou au ministre qui a la confiance du peuple. Mais, demain ou après-demain, même si aujourd'hui le président Kabila partait, il n'y aura pas un miracle pour changer ce pays en une seconde. C'est le fruit d'un travail. Ça ne sera pas automatique, que les gens ne rêvent pas. Mais moi, en tant que M. le Maral, j'invite tout le monde à la culture du travail. J'invite tout le monde que nous devons nous organiser, même sur le plan local, pour intervenir tant soit peu, chacun en ce qui les concerne. Et je suis même allé plus loin. J'ai un projet sur ma table, où j'invite chaque membre du gouvernement, d'avoir une maison moderne, là où il est né. Là où il est né, tout celui qui a été, ou est encore ministre, tout député national ou provincial, gouverneur, ministre provincial, sénateur, député national, un village qui a vu naître, tous ces gens-là, gouverneur de la Banque centrale, PDG et consorts, là où il est né, il n'y a même pas une ampoule d'un simple panneau solaire. Il n'y a pas une maison où on pose la question. Si un village aurait eu 4-5 ministres au cours de l'histoire, et que chacun bâtisse quelque chose d'important chez lui. Moi, je l'ai fait dans mon village. Tout le monde, je lui dis, monsieur, nous avons inventorié l'adresse, les villages de chacun de nous. C'est lui qui me dit, non, moi je suis né à Kananga, et ton père est né où? Oh, mon père aussi était à Kananga, et ton grand-père. Et chacun a un village. Le retour au village. Et puis...
Il y a
Élie Lokwa. Qui est parlé de l'Équateur, je crois. Oui, on ne gère pas un pays sans un certain rétroviseur pour savoir exactement quel est le coût réel de tel ou tel projet. Oui, je l'encourage quand il dit que la Chine n'avait qu'un chantier. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais la Chine n'avait pas seulement un seul chantier, qui est l'agriculture. Il y avait un deuxième chantier, le plus important. C'est l'évolution de la mentalité du peuple chinois. Et je l'informe que quand Mao prend le pouvoir le 1er octobre 1949, ça, la première initiative de Mao est qu'il a créé des brigades, qu'il a appelé collège des élèves et des étudiants pour les saluts de la Chine. Tout regroupement des Chinois, où on trouve les gens en train de parler de futilité, qui n'a aucun rapport avec la vente de la Chine, 6 mois de prison. 6 mois de prison. Les églises qui prenaient les gens en train de les adoctriner, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on ferme. Parce qu'il y a un temps pour prier et il y a un temps pour travailler. Je vais y arriver. Donc ici même, le débat ici, c'est une question de mentalité. Le débat ici, c'est une question de mentalité. Et nous devons nous entraider pour qu'on se développe. Monsieur Arsène de Kikit, oui, je t'encourage d'aller au village. Moi, plus ou moins, 3 fois par an, je suis dans mon village. Et j'ai amélioré les petites conditions de vie de mon village. Même mes voisins qui avaient des cases en paille. Quand j'ai eu l'occasion, je lui donne 3, 4, 5, 10 tôles. Au lieu de la paille, il met aussi les tôles. Et nous ne serons rien dans ce pays tant que nous n'aurons pas amélioré les conditions de vie de nos villages. Voilà. Et le développement part de la base, part de la fondation et ne vient pas du sommet. Voilà. Quant aux investisseurs américains, c'est très global.
Il y a 3 auditeurs encore qui sont nombreux sont en train d'appeler d'ailleurs.
Mais il faut que j'éclaire sur le passage des investisseurs américains. Donc quelqu'un me dit qu'il ne faut pas que les Américains nous impressionnent. Non, ce n'est pas une question d'impressionner. Il y a une société, c'est un consortium américain, Global Trade et Finance. Madame Lei, qui conduisait la délégation, a été reçue par le président de la République. Effectivement, c'était pour le projet de l'électrification rurale. Ils ont une nouvelle technologie dans le domaine de l'électrification rurale. Et là, je suis en contact permanent avec le ministre de la Coopération au Développement et celui de l'énergie et ressources hydrauliques pour se compléter. Et nous avons signé un protocole d'accord. Cette dame, avec tous les partenaires qui l'accompagnent, rentre ici le 10. Le 10, où nous allons lancer plus ou moins 5 projets pilotes de 5 villages à travers la République du Congo. Où, au moins, cette technologie est que un kit d'électrification rurale, dès qu'on le pose, il a la capacité d'éclairer 120 ménages. Et nous allons tenter, avant le mois de décembre, j'espère que nous aurons, avec l'appui et l'accompagnement du président de la République, celui du Premier ministre, et nous-mêmes les ministres sectoriels, développement rural, énergie, nous allons essayer effectivement de tenter cette expérience. Nous sommes malades, nous sommes malades, nous avons besoin de médecins.
Voilà, merci. On va écouter Félicien qui est ici à Kinshasa, Georgette Amanome Pacifique à Lubumbashi. Félicien, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Merci.
Oui, mais moi je pose la question, est-ce que quand nous voyons l'agitation dans laquelle la classe politique congolaise et principalement monsieur le ministre Bitakwira font pour entrer au gouvernement, ils sont agités, ils agitent même les arbres, donc ils n'ont rien à apporter pour l'intérêt général. Et ils vont que pour leur vendre leur intérêt. Et quand ils sont là, ils commencent maintenant encore à parler. Ça ne va pas. Nous venons de loin. Nous, c'est juste là. Oui, tout le monde vient de loin. Mais en 20 ans, regardez un peu comment la Chine est devenue à moins de 50 ans. Et l'Afrique du Sud, et tout ça, des gens qui venaient se soigner chez nous ici. Et comment aujourd'hui nous peinons pour avoir des visas pour aller là-bas. Mais comment est-ce que le président de la République a toujours cherché 15 meilleurs fils et filles de ce pays, mais malheureusement, quand on forme un gouvernement, c'est des agitateurs qui entrent, ce sont des applaudisseurs qui entrent, et puis quand ils arrivent là-bas, ils commencent à dire « Non, nous avons besoin du temps, nous venons de loin, et ceci, cela. » Mais c'est Bitakwira a raison de dire que la vie c'est un théâtre. Et nous ici vraiment, nous sommes en train de montrer que la gestion de la nation c'est un théâtre. Donc il faut que chacun se batte pour entrer au gouvernement. Et puis comme il le dit, même s'il y a élection demain, il y a rien qui va changer parce que la classe politique est médiocre. Donc ils sont là pour leur ventre, ils ne peuvent rien changer. C'est ce qu'il est en train de vous dire entre parenthèses. Non, moi je pense pas que c'est comme ça que nous devons réfléchir. L'élection, quand on a voté le dimanche, Ce n'est pas le lundi que les choses vont changer, mais au moins on a changé la classe politique qui va faire quelque chose. Quand Mobutu est parti et Laurent Désiré Kabila est arrivé, dans le peu de temps qu'il a fait, il a apporté quelque chose. Il est parti, Joseph Kabila est resté, dans le peu de temps qu'il a fait, il a apporté quelque chose. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura élection, chaque fois qu'il y aura changement, il y aura toujours un plus qui va s'ajouter. Et on ne peut pas dire que non, il n'y a rien qui va changer, les pauvres resteront, les pauvres, ainsi de suite. Non, moi je crois que ça, c'est la médiocrité de la classe politique congolaise qui ne comprenne pas qu'on doit aller aux affaires pour l'intérêt général, c'est pour l'intérêt de la nation. Et c'est comme ça que les gens se bousculent, les gens font des bruits. Ici, lui n'est pas le ministre, il invoque même la sorcellerie de sa grand-mère, et tout cela, parce que c'est seulement le fait d'être ministre. Alors que, ailleurs, quand on a été à ce niveau-là, quand on n'a pas laissé de bonnes traces, de bons exemples, on est malade, on est gêné de vivre dans ce pays-là. Mais ici, chez nous, non, c'est normal. Et on était parti sans vélo, on sort avec un charrois automobile, on était locataire, on avait même des dettes de pain, mais quand on sort là-bas, on commence à distribuer de l'argent aux gens, on a des immeubles partout, et c'est ça la cruauté de ce pays. Ça, c'est la médiocrité, ça, ce sont les anti-valeurs, et nous devons nous lever comme un seul homme pour combattre ça. Moi, ça m'étonne. Les investisseurs ont commencé depuis les premiers commissaires d'État, on les fait défiler, nous les voyons. Mais là où ils investissent, on les a jamais vus. Qu'est-ce qu'ils investissent exactement? Les Chinois sont venus, on leur a donné des terrains qui étaient réservés, je sais pas, aux poumons d'air ou à autre activité. Ils ont construit des maisons à vendre, et on n'a pas vu des loyers sociaux. Mais on les voit quand même qu'ils ont construit. On les a vu construire les routes. Mais les autres là qui viennent, qu'on voit qu'à la télé, ils passent par où depuis la deuxième
république? Alors, ce qu'on va faire cette fois-ci, je crois, Félicien, c'est nous revenons dans le fait, hein, dans le ce que le ministre a expliqué tout à l'heure, qu'il y a ces investisseurs qui sont arrivés pour l'électrification en milieu rural. On va rester dans ces projets. Deux, trois mois après, on va se retrouver pour voir. D'abord, le ministre pourra nous dire les villages pilotes qui sont concernés avant la fin de l'émission, pour qu'on sache qu'exactement les gens sont venus, ils vont investir, ils vont électrifier tel point du pays, si c'est déjà décidé, et comme ça on pourra faire l'évaluation sur base de ça. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre pays, beaucoup de choses à dire, mais si nous nous focalisons sur cette question que nous avons évoquée aujourd'hui avec le développement rural, je crois peut-être qu'on peut noter quelques éléments à gauche, à droite, et faire évoluer ainsi le débat. Georges, vous êtes à Manono, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour aussi à Monsieur Justin Bitakouya. Alors, Monsieur Pierrot, ce qui est à la base du manque de développement dans les milieux ruraux dans notre pays, c'est un problème de mauvaise planification et de mauvaise croyance de nos ministres. Monsieur Pierrot, vous verrez qu'il y a des ministres qui pensent que pour être populaire dans notre pays ou bien pour conserver son titre, il faut être populaire à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Mbujima et dans les grandes villes. Alors vous pouvez voir un ministre qui peut terminer son mandat sans se rendre dans son village natal. Alors comment est-ce qu'un ministre qui ne sera même pas dans son village natal peut avoir l'initiative de développer son contrat là? C'est ça la base. Eh bien, M. Pierrot, je vais vous donner un exemple d'ici chez nous à Manono. Nous avons les barrages en ce qui concerne l'électrification dans les milieux ruraux. Nous avons les barrages de Mpianamwanga qui fait électrifier les territoires environnants de Manono. Je prends Malimbankulu, Kongolo, Kambalo. Eh bien, ça peut même arriver à Kalemie parce que ça sert beaucoup de quantité. Monsieur Pierrot, nous avons connu des files de visiteurs, des ministres qui viennent, mais après lorsqu'ils rentrent, c'est une lettre mort. Monsieur Pierrot, la route Manono Lubumbashi, il y a des camions qui font même deux mois. Si vous y rendez, je pense, Monsieur Pierrot, vous n'allez pas encore, vous n'aurez pas besoin de vous rendre encore. Monsieur Pierrot, à ce qui concerne la réunion entre le président et les investisseurs américains, le problème qui est là, le président de la République a des initiatives là louables, mais c'est les collaborateurs du président de la République qui ont les problèmes. Surtout à ce qui concerne l'exécution de projets, ils exécutent le projet
Merci beaucoup.
Rapidement Et bien même merci. Si vous voyez la valeur des projets exécutés, ça n'a pas tellement, vous voyez,
voilà. C'est un pays et là, si on doit retenir l'essentiel, vous avez parlé d'abord d'une question de planification pour les milieux ruraux et de l'orientation. Le reste, vous avez estimé qu'il y a la route, il y a les barrages, mais c'est un problème de comment on collabore, comment on planifie. On pourra voir ces projets évoqués dans cette émission, comment cela peut être orienté. On va à Lubumbashi avec vous, Pacifique. Bonjour. Pacifique, vous êtes avec
nous. Le ministre Justin Vitakwira ainsi que toute la population congolaise qui est en train de nous suivre pendant ce moment. Je suis très content, Pierrot, par la présence de M. le ministre Justin Vitakwira à votre studio pour éclairer la lanterne. Je crois que le projet qu'il venait d'annoncer là, c'est un très bon projet qui va faire de sorte à ce que les grandes villes soient aussi congestionnées, parce qu'on voit aujourd'hui il y a des grandes villes qui sont vraiment, qui ont beaucoup plus d'affluence, très très grande, et parce que tout ce qu'on trouve dans des grandes villes, on ne trouve pas dans les agglomérations. Et alors, si on pouvait le trouver dans les agglomérations, les grandes villes peuvent être facilement décongestionnées. Ça, c'est une très bonne chose, c'est louable. Mais néanmoins, je suis tout à fait content du fait que le ministre Justin Vitakwira affirme d'une manière ou d'une autre de l'incapacité du régime actuel aux affaires publiques de l'État congolais. Alors, il le dit, les investisseurs qui viennent maintenant, où est-ce que ces investisseurs-là étaient dès lors que les cinq chantiers de la République a commencé? Parce que ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, c'est dans les cinq chantiers où nous avons l'eau, l'électrification, l'éducation, logement décent, route, toutes ces choses-là ont figuré là-bas, dans les cinq chantiers du président Kabila. Il y a toutes ces choses. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas faire appel à tous ces investisseurs là pour qu'ils viennent entrer dans les cinq chantiers afin de concrétiser tout cela pour que nous ayons ce qu'ils nous ont chanté, annoncé cette journée, la modulaire, je ne sais pas bien là, sur le plan thématique, ça ne compte pas, la révolution de la modernité, des choses comme ça. Non, le peuple congolais a besoin, tout à fait de toutes ces choses-là. Mais ça n'existe pas 15 ans durant, Pierrot. Et aujourd'hui, le régime est à la porte pour l'alternance au pouvoir. Vous pensez que les investisseurs-là donneront l'argent? Ils ne donneront pas l'argent à un régime qui est en train de quitter. Je vous le dis, et M. Vitakwira le sait très bien. Les sommes faramineuses.
Alors, ce qu'on va faire pacifique, c'est qu'on va faire pacifique dans le cadre de ces projets pacifiques. On n'a pas dit qu'ils viendront donner l'argent. Ils vont installer les kits d'électrification. C'est ce qu'on va observer d'ici là. Le ministre a dit d'ici les 10, ils pourront revenir. Mais vous estimez quand même que ces projets, s'ils réussissent, ça va permettre quand même de décongestionner les villes, parce que beaucoup des gens aujourd'hui qui quittent les villages pour aller en ville, ils cherchent les conditions de vie qui peuvent paraître meilleures. On va terminer avec vous, Ismaël. On reste à Lubumbashi. Merci de nous avoir rejoints à ce niveau du débat. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour.
Alors là, Ismaël, on a des petits soucis des lignes. Monsieur le ministre, vous avez suivi les uns et les autres. Et on estime que quand il y a des débats, des financements, à la veille du changement de régime ou des élections, on ne peut pas quand même détacher cela dans la conception, n'est-ce pas, de l'ensemble de nos auditeurs. Mais l'idée aujourd'hui, c'est qu'on voie les actions concrètes en milieu rural, que ce genre de projet puisse réussir, qu'il y ait quand même de l'électrification. Ce sont des cas concrets comme ça qui peuvent, à un certain moment, donner les crédits à ce qui est proposé par le gouvernement.
Je voudrais d'abord dire ici que notre souci, parce que je vous ai parlé du téléphone à l'époque, ou quelqu'un qui vient de la grande ville de Kinshasa, pour un autre pays, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, on le voit renverser le téléphone. C'était inimaginable par rapport à la renommée de la ville de Kinshasa. Et c'est quand vous insistez pour lui poser la question, il dit non, chez nous, il n'y a pas de téléphone. C'est vrai, il y en avait à Gombe, mais il y en avait à Bumbu, il n'y en avait pas à Bumbu, il n'y en avait pas à Selembao, il n'y en avait pas peut-être à Bukavu, il n'y en avait pas à Lubumbashi ou à Kisangani. Notre combat ici est que effectivement, que ce soit les rectifications rurales, que ce soit le logement social dans les milieux ruraux, que ce soit même ce que je demande aux différents membres du gouvernement actuel ou à venir, de poser un geste, chacun d'abord dans son village, Le développement, on ne l'importe pas. Le développement, c'est un problème de culture. C'est un de culture. Et nous avons ici 5 sociétés qui ont frappé à la porte dans le domaine de l'électrification rurale. J'ai appelé ici Global Trade et Finance pour les Américains. Ils rentrent, ils seront à Kinshasa le 10. Et j'insiste et je répète, même aux plus pessimistes que j'entends ici, qu'ils nous observent que quand ces investisseurs viennent, s'il n'y aura pas plus ou moins ces 5 villages qu'on va électrifier avec 120 ménages.
Est-ce qu'on a déjà décidé
les villages, nous sommes en train de discuter avec la présidence de la République pour savoir exactement les 5 villages, mais dans les 48 heures, je peux vous donner quels sont les villages qui ont été choisis. Et de deux, il y a la Société française des énergies renouvelables, avec laquelle aussi on a un protocole d'accord. Il y a l'American Engineering Group, c'est encore une société américaine. Il y a Société Terre-et-Mer, c'est une société de droit congolais. Et puis il y a West Trading, une dame, une israélienne, qui est aussi dans le secteur de l'éclairage rural. Mais je voudrais dire à monsieur...
Rapidement,
pour oui.
ramasser un peu l'ensemble des préoccupations.
Je voudrais dire à monsieur Félicien de Kinshasa, je comprends son amertume. Il déplace encore le débat. Ici, ce n'est pas une question de classe politique ici. Et puis, nous ne faisons pas de l'agitation. Un acteur politique, quel est son rôle? C'est comme si tu es un joueur qu'on a recruté dans Renaissance. Ton combat, c'est lequel? C'est d'être aligné un jour dans le match contre Vita Club. Tu es dans Mazembe. Tu ne veux pas qu'on t'aligne pour aller jouer. Finalement, tu es quel joueur? Quand est-ce qu'on va savoir que toi aussi, tu peux marquer un but? C'est ce que je fais ici. Je ne fais pas de l'agitation. Ma grand-mère n'est pas sorcière. Ma grand-mère, c'est le symbole d'un citoyen
voilà.
ou d'une citoyenne
ouais.
qui a été oubliée par la République. C'est seulement ça. Ma grand-mère indique qu'elle n'a jamais bien épuisé de l'État.
Rapidement, c'est que les autres ont dit qu'on entre dans les débats politiques, qu'on reste dans le
bon,
fait
pour
la question rurale est très importante.
Pour le changement de la classe politique, je lui dis que Kengo était le premier mobutiste. Sous président Kabila, il est président du Sénat. Faut pas que les gens pensent, quand il y aura changement, tous ceux qui étaient avec Kabila perdent la nationalité congolaise. Et ceux qui viennent, ce sont les nouveaux Congolais.
Bon,
non, ce pays est à nous tous pour toute la vie.
Voilà. Alors,
Pour Georges Desmanon, moi, je comprends son souci. Vraiment, je comprends son souci.
Il faut qu'il ait
au
bout de l'exécutif agricole.
Qu'il juge le maçon au pied du mur. Et Pacifique de Lubumbashi dit, bon, moi, je l'encourage également sur la compréhension qu'il a. Mais je lui dis, le malheur de notre pays est que tout le monde voit tout en noir. Le lendemain est sombre. Il ne voit aucun bout d'éclairage. Aucun bout d'éclairage. Tout le monde sait que ce pays est maudit.
Et
ils vont même
les
vendre.
Voilà. Et les précisions que nous avons reçues, c'est qu'on croit qu'avec ces projets, il y a quand même des villages qui vont être électrifiés. Ça, au moins, c'est un brin d'espoir. On peut rester sur ça.
Et les conseils que je vais donner,
rapidement,
il faut que les Congolais qui se retrouvent au Kassai, dans le Grand Kassai, Grand Bandundu et ailleurs, il faut qu'ils sachent qu'il y a certaines villes, certaines provinces qui sont en train de se développer. Goma n'est pas le même Goma d'il y a 5 ans. Matadi n'est pas le même Matadi d'il y a 10 ans. Et Lubumbashi, pourquoi pas Kolwezi? Je viens de Kolwezi. Donc, il faut que chacun sache
merci.
Que le développement se fait d'abord par merci. La volonté de ses propres citoyens à la base.
Voilà, merci beaucoup monsieur Justin Vitakura pour ces pressions. On pourra se retrouver pour évaluer, je crois peut-être dans le mois à venir, l'ensemble de ces projets. Rapidement, Nico, vous êtes avec nous pour le sujet de Parole aux auditeurs demain jeudi à 11h.
Oui, Pierrot, bonjour. On va lancer le débat encore demain. Et le projet de loi électorale a été adopté le lundi dernier à l'Assemblée nationale. Malgré le réajustement du seuil d'éligibilité ramené de 3 à 1%, ce projet de loi ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique congolaise. Il a fait particulièrement l'objet d'une rencontre entre le président du Conseil national de suivi de l'accord, Joseph Olenganko, et les ministres de l'opposition, membres du gouvernement Tshibala. Et selon les sources proches de cette réunion, le projet de loi déposé à la chambre basse du Parlement par Bruno Tshibala n'est pas celui qui avait été adopté au Conseil des ministres. Certains observateurs craignent qu'une fois promulguée dans ces conditions, cette loi ne puisse favoriser la tenue d'élections crédibles et transparentes souhaitées par tous. Qu'en pensez-vous? C'est donc demain à 11h.
Voilà, on se retrouve autour de cette question, Nico. Merci à tous, merci à Alain Goy, merci à Martin Seboujang pour la supervision de cette émission. Au revoir. 12h à Kinshasa, 13h à Kananga et Kindu.
Radio Kapi.